Voilà, ce matin, on va poursuivre notre étude du chapitre 17 de l'évangile de Jean. Chapitre 17 qui nous rapporte la dernière prière de Jésus. La prière qu'on appelle la prière, vous savez, sacerdotale. En fait, c'est la prière du prêtre Jésus. Comme je l'ai dit, Jésus est déjà au-delà de la croix, il n'est pas encore mort, et pourtant, il est déjà entré dans l'office qui sera le sien après la mort, et qui est le sien aujourd'hui. Jésus est dans le ciel comme un grand prêtre qui prie pour nous. Je trouve que les sujets de prière que Jésus énonce ici, il y en a sept, on les verra l'un après l'autre, sont importants parce que ça nous montre ce à quoi Jésus s'engage pour nous. On peut se poser la question, quel est le contenu des prières de Jésus pour nous aujourd'hui? Il y a des choses pour lesquelles Jésus s'engage. Il veut qu'on atteigne, qu'on vive, et qu'on soit au bénéfice des sujets pour lesquels il prie pour nous. Parfois, on a des sujets de prière qui ne sont pas forcément ceux de Jésus. Mais ici, nous savons ce à quoi Jésus s'engage. Le premier sujet de prière qu'on avait vu, c'est que nous soyons, que, en fait, il puisse être glorifié à travers nous. C'est ce que Jésus voulait, et c'est ce que Jésus veut toujours. Et aujourd'hui, on va lire les versets 11 et 12, qui nous donnent un deuxième sujet de prière. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Donc Jésus est déjà passer à autre chose. Mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, Judas, afin que l'Écriture soit accomplie. Jésus commence ce sujet de prière en évoquant le grand changement de situation qui est maintenant devant les disciples. Jusqu'à présent, Jésus était avec les disciples, mais il leur dit, et il le dit dans sa prière, « Maintenant, je ne serai plus là. Je ne suis plus dans le monde. » Jésus a préparé de nombreuses fois les disciples à cette éventualité, à cette perspective. Dans Jean 7, verset 33, déjà, Jésus dit « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Ce n'est pas la seule parole, le seul moment où Jésus parle de ce qui va lui arriver, du chemin qui va être le sien. Mais quand on parcourt les évangiles, on se rend compte que les disciples ne sont pas prêts à accepter cette éventualité, cette vérité. Les mots de Jésus sont clairs quant à ce qui va lui arriver, mais les disciples ne veulent pas l'entendre ou n'arrivent pas à le comprendre. Dans Jean 16, le chapitre précédent, versets 17 et 18, Jésus dit au verset 15 encore, qu'il sera là encore un peu de temps et qu'il va partir. Et verset 17, il est dit « Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire ? Par encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez, et parce que je vais auprès du Père. » Il disait donc « Que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps ? Nous ne savons pas de quoi il parle. » C'était pourtant assez simple. Mais vraiment, il n'arrivait pas à capter l'idée que Jésus parte. Dans Luc 24, 21, on comprend pourquoi les disciples avaient tellement de mal à comprendre cela. On est ici après la résurrection et Jésus chemine avec deux disciples qui vont vers Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus s'approche d'eux, et les disciples ne le reconnaissent pas au début. Et ils conversent ensemble, ils discutent. Ils sont étonnés que cet homme qui est près d'eux ne sache pas ce qui s'est passé il y a peu de temps au sujet d'un certain Jésus. Et ils disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. C'était ça qui habitait les disciples pendant que Jésus était avec eux. Ils étaient persuadés que Jésus allait grandir en puissance, que son règne allait s'étendre et qu'il délivrerait Israël de tous ses ennemis. C'était ça l'attente qu'avaient les disciples. Et on le voit dans certaines de leurs prières, Jacques et Jean par exemple, qui disent, quand tu régneras, permets qu'on soit l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Ils voulaient être les premiers ministres de Jésus, hein, dans son règne. Mais Jésus constamment leur dit que ce n'est pas là du tout le chemin qui est le sien. Il contredit les disciples à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean et ailleurs. Il leur dit, je suis encore un peu de temps avec vous, pas longtemps. Je vais devoir partir. Et il précise même qu'il va devoir mourir, qu'il sera livré par les autorités religieuses. La première leçon qu'on peut apprendre, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre perspective ou nos attentes envers Jésus, même les attentes des disciples, ne sont pas toujours celles qu'a Dieu et celles qu'a Jésus pour nous. Jésus avait une perception claire de la volonté de Dieu, de sa mission, et c'est pourquoi ses prières étaient toujours justes. Mais nos prières, souvent, reflètent nos désirs, nos attentes. C'était le cas pour les disciples. Pour les disciples, il n'y avait rien de pire que l'idée que Jésus meure. C'était pour eux inenvisageable. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à entrer dans l'idée, dans les mots de Jésus quand il les prévient qu'il va partir. Mais pour Dieu, il n'y avait rien de plus souhaitable que Jésus meure. Parce que c'était par là que la réconciliation était possible. Et on voit donc la difficulté, comme je l'ai dit, de faire coller les attentes de Dieu avec celles des disciples. Il fallait un renouvellement de leur pensée pour qu'ils comprennent le plan de Dieu. Et je crois que c'est très important aussi dans la prière, notre plus grand besoin dans la prière. C'est pas de formuler nos désirs, nos attentes, c'est d'être éclairé d'abord par la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que je dis que Jean 17 est si important. Parce qu'ici, nous avons une liste des choses pour lesquelles Jésus s'engage pour nous, dans lesquelles il va travailler pour qu'on puisse accomplir, être ceux que Dieu veut que nous soyons. Et on va le voir, en fait, dans Jean 17, toutes les choses pour lesquelles Jésus prie sont du domaine spirituel, en fait. Jésus ne se préoccupe pas d'abord de notre confort ici-bas, mais ce qu'il veut, c'est qu'on soit sanctifié, c'est qu'on soit uni, c'est qu'on ait sa joie, c'est qu'on le glorifie. Ce sont tous des choses à dimension spirituelle. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que quand l'apôtre Pierre ou Paul prient, pour l'Église, c'est toujours dans cette direction-là qu'ils vont. Ils prient pour l'unité, l'amour, le rayonnement des chrétiens. Ils ne prient pas pour leur confort, hein, leur bien-être ici-bas, mais qu'ils puissent être les témoins que Dieu veut qu'ils soient dans ce monde. Ce qui est la clé de la prière de Jésus, on le trouve dans Matthieu 26, verset 39. Et c'est aussi pour ça que Jésus est au cœur de la volonté de Dieu quand il prie. Et c'est aussi pour ça qu'il peut dire, tu m'exauces toujours. Il le dit au moment où il va prier pour Lazare, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi est-ce que Dieu peut exaucer toujours Jésus? Parce que le principe qui anime sa vie, on le retrouve dans Matthieu 26, 39, comme je l'ai dit, au moment le plus difficile. C'est non pas ma volonté, mais la tienne. À partir du moment où Jésus construit sa vie non pas sur sa volonté, mais sur celle de Dieu, eh bien ces prières sont façonnées par la volonté de Dieu, elles sont exprimées, elles sont justes devant Dieu et Dieu peut y répondre. Alors quel est le sujet de prière? On peut dire presque le premier ici, bien que on trouve avant donc ce désir qu'il soit glorifié à travers nous. Mais ici Jésus dit, voici ce que je te demande, Père, Père Saint, garde-les en ton nom. La première prière de Jésus pour nous, c'est une prière de protection. Jésus sait, comme il l'a dit, qu'il va quitter ce monde, mais que les disciples vont rester dans ce monde. Ils vont continuer à porter le témoignage de son nom. Et Jésus sait qu'ils sont dans un univers hostile, comme lui a vécu toute sa vie dans un univers hostile. On va voir aussi maintenant quelle est la teneur de cette protection que Jésus demande pour nous. Si vous deviez formuler vous-même une prière à Dieu pour votre protection, quelle serait-elle? Quelle serait-elle? Peut-être que nous pourrions demander à Dieu, bien, je pense sur le plan naturel, on penserait d'abord à notre confort, hein. Que tout se passe bien, Seigneur, que je sois épargné de tout malheur, de toute souffrance. On pourrait, pour apporter cette prière à Dieu, se fonder sur des expériences ou des histoires qu'on trouve dans la Bible. Vous vous souvenez peut-être des trois amis de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise. Il est dit que le roi Nebuchadnezzar, quand il a regardé ces trois hommes qui l'avaient défié et qui étaient jetés dans la fournaise, il dit « N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu ? Eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le quatrième ressemble à un fils de Dieu. » Protection extraordinaire des trois amis de Daniel. Plus tard, Daniel lui-même, le prophète, va être jeté dans une fosse au milieu des lions. Là, c'était au temps du roi Darius. Et étonnamment, il va survivre. Dieu va fermer la gueule des lions. Et quand le roi Darius, le lendemain de la nuit où Daniel avait été jeté, va voir au-dessus de la fosse, Daniel lui dit « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Fort de ces exemples, on pourrait dire, Seigneur, puisque tu as fait cela, est-ce que tu ne peux pas le faire pour tous tes disciples? Mais c'est intéressant de voir que Jésus ne s'engage pas à cela. Et nous devons être conscients de cela. Jésus ne nous a jamais promis que nous soyons protégés des conséquences de notre foi ici-bas. Au contraire, avant de partir et de quitter ses disciples, il leur dit dans Jean 16, le chapitre précédent, « Vous aurez à souffrir dans le monde. On vous livrera aux tribunaux. Vous serez battus dans les synagogues à cause de moi. L'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. » Donc, ne vous faites pas d'illusions. En restant dans ce monde, en étant mes disciples, je ne vous assure pas que je vais vous protéger de toute souffrance et de tout malheur. Mais la protection que Jésus invoque pour nous, elle nous montre qu'il y a pour lui quelque chose de plus important et de plus dangereux que le fait de perdre sa vie dans ce monde à cause de la foi. C'est simplement le fait de sortir de la communion avec lui, comme Judas. Vous vous rappelez? Judas qui a préféré l'argent à Jésus. Au fond, la prière de Jésus, c'est que nous soyons gardés dans la relation avec Dieu, dans la communion avec lui. Il le dit, garde en ton nom, garde-les en ton nom, à l'intérieur de toi, en quelque sorte. Et le désir de Jésus, c'est que rien ne nous fasse sortir de la relation avec Dieu, de la communion avec lui. Il prie pour cela. Alors nous pouvons certainement, quand nous passons par des souffrances, et nous avons le droit de demander à Dieu de nous en délivrer. Mais on doit toujours garder à l'esprit que le but de Dieu, c'est de nous garder d'abord dans la relation avec lui, quel que soit le degré de l'épreuve par lequel nous passons. D'ailleurs, l'apôtre Jacques, on en avait déjà parlé, il le montre. Le but de l'épreuve, c'est de nous fortifier en Christ. C'est de nous conduire à la maturité. C'est de nous amener à une communion plus intime encore avec Dieu. Et Dieu travaille. C'est le premier but qu'il poursuit dans nos vies. On doit savoir que l'objectif de Christ, c'est qu'on soit unis à lui. Il s'engage à cela. Jésus ne s'est pas engagé à nous délivrer de tout malheur. Il ne s'est pas engagé non plus à nous guérir de toutes nos maladies. Certains pensent que parce que Jésus a délivré, a guéri et qu'il a délivré beaucoup de gens de leurs souffrances, eh bien ça devrait être comme ça aujourd'hui en tout temps. Jésus dément cela. Il dit à Jacques et Jean, à un certain moment, justement quand il demande, quand il lui demande d'être assis à sa droite et à sa gauche, il leur dit qu'ils devront boire la coupe de souffrance qu'il a bu lui-même. S'ils veulent parvenir à la gloire, connaître la gloire que Jésus a connue, ils devront passer par le même chemin. Ce que Jésus veut, c'est qu'on soit ses imitateurs et qu'on démontre par notre attachement à lui qu'il est tout pour nous. C'est cela que Jésus veut dans nos vies. Et pour cela, il prie pour notre protection spirituelle. Dans le verset 23 du chapitre 17, Jésus décrit la relation qu'on a avec lui avec quelques mots. Il dit à Dieu, il parle de cette relation en disant « Moi, je suis en eux et toi, tu es en moi ». Alors ça semble un peu ardu comme ça, mais il veut simplement dire que la relation avec Dieu, elle est possible par lui, pour les disciples. Je suis en eux, et toi Dieu, tu es en moi. À travers Jésus, nous sommes en contact direct avec Dieu. Et la pire chose, le drame le plus important, le plus dangereux, enfin le drame le plus, comment dire, le plus dramatique, si on peut dire comme ça, eh bien, c'est que cette relation, cette proximité avec Dieu soit détruite. Alors, de quoi avons-nous besoin d'être protégés pour que cette intimité avec Dieu puisse perdurer et s'approfondir dans nos vies? Eh bien, pour le savoir, on va aller vers une autre prière qui se trouve dans la Bible. Cette prière, c'est celle que Jésus a enseignée à ses disciples. On est sûr ici que ce sont vraiment des sujets importants, puisque Jésus les a formulés pour nous. Et comme je le dis, voir ce que Jésus prie, ça nous aide à savoir aussi dans quelle direction on doit prier. Dans Matthieu 6, versets 12 et 13, on va juste revenir sur les trois sujets que Jésus a mentionnés et qui ont un rapport direct avec notre protection spirituelle. Vous les connaissez, hein, parce que notre Père est connu dans le monde entier, on pourrait dire. Mais finalement, c'est intéressant de lire cette prière à la lumière de Jean 17, où Jésus prie pour notre protection. Premier sujet, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? La première chose, c'est le refus de confesser nos offenses, tout simplement. D'appeler les choses, d'appeler le péché par son nom. Chaque péché est une offense à Dieu. Et si nous ne reconnaissons pas notre péché, il y a comme une barrière, quelque chose qui s'interrompt dans notre relation avec Dieu. Et dans la même veine, Jésus parle non seulement du fait de reconnaître nos offenses, mais de pardonner aussi les offenses des autres envers nous. Le refus de pardonner, comme le refus de confesser ses péchés, représente une barrière qui nous coupe de la relation avec Dieu. Et si nous persévérons dans cette attitude de résistance à Dieu, eh bien, nous risquons de nous éloigner de lui. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Ésaïe 59 nous dit, versets 1 et 2, « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » C'est ça qui a amené ensuite le jugement sur Israël. Le refus de reconnaître son péché, qui dresse un mur entre Dieu et le peuple, qui cache la vue de Dieu au peuple et qui l'empêche d'écouter. Le premier danger se trouve dans notre cœur, donc. C'est dans notre cœur que se trouve la première cause de séparation. Et ce qui est extraordinaire, c'est de nous rappeler que quel que soit le péché, Jésus nous connaît et il est mort pour cela. On n'a pas besoin d'avoir peur de lui dire « voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai fait ». Le Seigneur est venu pour cela. C'est pour régler la question du péché qu'il est venu, pas pour autre chose. La deuxième demande, et elle est liée à la première, « ne nous expose pas à la tentation », il est dit. Ne nous induit pas en tentation, ne nous expose pas à la tentation. Bien sûr, quand il y a cette barrière de séparation entre moi et Dieu, eh bien, je suis beaucoup plus vulnérable à la tentation aussi. D'après Jacques, la tentation vient de l'excitation de nos désirs mauvais, de nos convoitises. La tentation est un climat dans lequel on va vivre toute sa vie. Elle est présente, elle sera toujours présente, parce que nous avons un cœur disposé au mal, naturellement. Mais la tentation, pour aboutir au péché, elle a besoin d'un accord, c'est l'accord de notre volonté. Et l'apôtre Jacques nous dit que quand la tentation et la volonté se marient, alors il y a un enfant qui naît, s'appelle le péché. Si la volonté a la capacité de dire non, la tentation ne peut pas produire le péché. Et Jésus prie pour que notre volonté soit fortifiée dans ce sens. Elle est fortifiée par notre relation avec Dieu, par le fait que nous pouvons vivre dans la communion avec lui. Elle est fortifiée parce que nous nous nourrissons de sa parole. La tentation vient de notre cœur. Et pourquoi elle vient de notre cœur? Parce que notre cœur a besoin d'aimer et de vibrer pour quelque chose. Il ne peut pas simplement être là, battre. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de passion, à votre avis, dans les tribunes des matchs de foot? Parce que le cœur, il a besoin de vibrer pour quelque chose, de se donner, d'être passionné. Si nous nous passionnons pour la parole de Dieu, pour la vie avec lui, nous sommes préservés de la tentation. Et c'est pourquoi Jésus prie, ne nous induis pas en tentation. Ne nous expose pas à la tentation. Le Seigneur veut qu'on soit préservé du mal. Et comme il le dit, c'est par le fait que nous sommes gardés en son nom, dans la parole, dans sa personne, dans la relation avec lui, que nous sommes gardés aussi de la tentation. Le troisième sujet, donc le premier c'est le manque de pardon, le manque de confession, ce qui nous sépare de Dieu. La deuxième chose c'est de nous laisser envahir par les convoitises, les désirs et de céder à leur appel dans nos vies. Et puis la troisième chose c'est l'œuvre du diable où Jésus dit « Mais délivre-nous du mal ou du malin ». Jésus ne nous a pas caché que dans le monde invisible, il y avait un esprit mauvais qui allait travailler pour qu'on puisse aussi chuter et nous séparer de Dieu. Jésus a prévenu Pierre peu de temps avant sa mort. Il lui a dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment ». Il a réclamé les disciples pour les détruire, pour les cribler, les amener à déchoir de leur foi, de leur confiance en Jésus. Et tout au long de la vie de l'Église, mais aussi de la parole de Dieu, on voit que le diable continue son œuvre de harcèlement auprès des chrétiens. Il rôde autour de nous, dit la Bible, comme un lion rugissant. Il cherche à nous intimider, à nous effrayer, à nous tenter, à nous accuser. Il y a plein de verbes qui sont liés à l'œuvre du diable dans le monde invisible. Dans la Bible, on le voit agir dans l'Église au travers de faux apôtres, de faux docteurs, de fausses doctrines. Il est prêt à ce qu'on parle de Jésus, à ce qu'on prêche un évangile, l'évangile, mais pas l'évangile du Christ. Un autre évangile, l'évangile du bien-être, par exemple, de la prospérité, alors que Jésus ne s'est pas engagé à cela du tout pour nous. Ce n'est pas le cœur de l'évangile. Il peut nous séduire ou nous amener à des compromis par les mauvais exemples qui peuvent exister parmi les chrétiens. Le danger, c'est de suivre de mauvais modèles aussi. Il peut nous amener à nous éloigner de Dieu par la pression de ceux qui sont nos proches et qui n'appartiennent pas au Seigneur, qui nous disent, qui insistent pour qu'on ne puisse pas nous engager avec le Seigneur. Rappelez-vous que une des sources de tentation pour Jésus, c'était Pierre, son disciple le plus proche. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas aller dans cette direction. Jésus a été clair, arrière de moi Satan, il a dit à Pierre. Le diable nous conduit aussi, en tout cas fait pression sur nous par la mentalité et l'esprit qui nous environnent dans le monde, où tout est relatif, rien ne compte, il n'y a plus de vérité, chacun fait ce qui lui semble bon. Et nous pouvons être gagnés par cette mentalité et penser que le péché n'est pas grave, puisque tant de gens le commettent. Il peut aussi faire pression sur nous par la peur, en nous disant « si tu t'engages, eh bien, ça va être difficile, tes amis vont te renier, certains ne vont plus être avec toi, ta famille va être contre toi ». Moi, j'ai vécu ça aussi. Voilà, toutes sortes de moyens que le diable utilise pour nous amener à nous séparer de Jésus. Il y a une chose qui est encourageante. Cependant, quand Jésus a dit à Pierre « Satan, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment », c'est dans Luc 22, 31. Le verset suivant, Luc 22, 32, donne à Pierre, en tout cas, quelque chose qui peut le rassurer. « Mais moi, dit Jésus à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » C'est ça la prière de Jésus, c'est qu'il intercède pour nous, pour que notre foi ne défaille pas. Elle peut passer par des tempêtes, elle peut être petite et faible, mais Dieu la soutient et Jésus continuera à la soutenir jusqu'au bout. C'est ça notre sécurité. Un dernier point. Jésus ne prie pas simplement pour notre protection. Si on retourne dans Jean 17, vous aurez remarqué. Il va beaucoup plus loin dans sa prière. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Il ne prie pas simplement pour qu'on soit protégé, mais pour que l'unité de l'Église, l'unité des enfants de Dieu, soit aussi protégée. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce point parce que c'est un des sujets de prière qu'on verra après. Et je pense, quand on lit Jean 17, que c'est vraiment le sujet principal de la prière de Jésus. Il prend beaucoup de versets pour parler de l'unité. Il veut que les cœurs des chrétiens soient alignés les uns aux autres, qu'ils vivent ensemble pour le même but. Et je crois que ça reste une prière importante de Jésus. Il l'a dit, c'est par l'unité, l'amour que nous avons, que le monde reconnaîtra que nous sommes ses enfants. Pour souligner l'importance de l'unité, je vous ramène à ce qui s'est passé tout au début de l'Église, dans les Actes au chapitre 5, alors qu'il est dit que l'Église n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Il y a au sein de l'Église un couple qui, par leur attitude, a essayé de briser cette unité. Vous vous rappelez, Ananias et Saphira. Et la condamnation, le jugement a été très sévère, puisque à cause de leur péché, Ananias et Saphira sont morts. Dieu les a fait mourir. C'est quelque chose qui a choqué l'Église, mais ça souligne à quel point l'unité est vraiment l'objectif que Dieu vise. Et quand quelqu'un, par hypocrisie, par mensonge, essaye de briser cette unité, alors il se retrouve devant le jugement de Dieu. Acte 5 est là pour nous dire que même si nous sommes sauvés par grâce, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi hein, dans l'Église, que Dieu ne va pas passer sur tout, mais que Dieu travaille à ce que la grâce produise l'unité dans l'Église. Et il est dit, la crainte s'empara de l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. C'est aussi le but de ces textes, de nous rappeler vraiment que la vie chrétienne est une chose sérieuse, la vie d'Église aussi, et que c'est vraiment ce qui est au cœur de Dieu et de Jésus pour nous. Alors je vais conclure. Rappelons-nous ce matin plusieurs choses que nous avons pu entendre et recevoir de ce texte. D'abord, on veut se souvenir que les sujets de prière qui sont justes devant Dieu, ce sont ceux qui collent à la volonté de Dieu. Et c'est bien que nous puissions prendre conscience de ce que Jésus veut pour nous, parce que c'est dans ce sens-là que nous devons prier. On peut formuler toutes sortes de choses devant Dieu, mais nous savons que Jésus s'est engagé et s'engage encore aujourd'hui pour nous dans des directions précises. Notre sainteté, notre joie, notre protection, l'unité de l'Église, le fait qu'on puisse être des témoins de lui dans ce monde. Jésus prie pour notre protection spirituelle. Et si nous sommes encore dans la foi, sachons que c'est grâce aussi à l'action de Jésus auprès de nous et en nous. Il prie qu'on reste caché en lui, dans la communion intime avec le Père. Il prie pour que rien, nous ne laissons rien se dresser entre nous et lui. Que ce soit par un péché que nous cultivons, que nous ne confessons pas, un pardon qu'on refuse d'accorder. Il prie pour qu'on soit gardé dans la tentation, que nous ayons la force de dire non aux sollicitations de nos mauvais désirs, et il prie pour notre protection spirituelle par rapport à l'œuvre du diable. Alors on peut le bénir pour ce ministère et aussi nous rappeler de ces choses pour qu'on puisse aussi prier dans ce sens pour nous, dans nos vies. Voilà, prions encore ensemble.